Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée aux Pères de l'Église. Lors des émissions précédentes, nous avions entendu comment la compréhension du mystère du Christ avait été formulée par les trois premiers conciles œcuméniques, Nicée, Constantinople et Éphèse. Aujourd'hui, nous découvrons ce qui s'est vécu entre ce concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine en 451.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour Jean.
Bonjour Amaury.
Voilà, c'est avec vous qu'on va parcourir ces 20 années qui séparent Éphèse et Chalcédoine. On peut peut-être revenir sur ces fameux conciles de Nicée, de Constantinople et d'Éphèse, sur ce qu'ils ont affirmé.
Oui, alors un petit rappel. Le concile de Nicée 325 et celui de Constantinople 381, les deux premiers conciles œcuméniques, ont affirmé la pleine divinité du Christ et de l'Esprit-Saint, donc la Trinité, mise en cause par Arius et ses partisans. Le Christ et l'Esprit sont consubstantiels, c'est le terme qui avait été retenu, sont consubstantiels au Père. Donc un seul Dieu en trois personnes. Et c'est un mystère qui est confessé par toutes les églises chrétiennes aujourd'hui, sans exception. Mais tout de suite se pose la question, une même substance que le Père, est-ce que ça veut dire une seule substance dans le Christ, une seule nature ? Alors, la théologie antiochienne va dire non, il n'y a pas une seule nature dans le Christ, il y a l'humanité. Si le Christ n'est pas un homme, nous ne sommes pas sauvés, au risque de concevoir une personne humaine distincte. Et la théologie alexandrine, défendue par Cyril d'Alexandrie, va dire oui, en insistant sur l'initiative divine. C'est le Verbe de Dieu qui est venu lui-même nous, dans le sein de Marie pour nous sauver. Et le Christ est donc unique. Il n'est pas de nature, parce que bon, au risque d'estomper la réalité humaine du Christ derrière sa divinité. Alors, le concile d'Éphèse va envoyer le balancier dans un sens, et il va confirmer la théologie de Cyril et sa dynamique du salut. Et enfin, les deux écoles d'Alexandrie et d'Antioche vont se réconcilier dans un moment qui est historiquement significatif pour nous aujourd'hui. Quand on voit que cet échange de lettres entre Alexandrie et Antioche, chacun des deux fait un pas vers l'autre, et il y a un merveilleux exemple de dépassement des conflits théologiques, dans la vérité.
On peut quand même dire que c'est la pensée de la théologie de Cyril d'Alexandrie qui est quand même retenue.
À ce moment-là, oui. Mais les théologiens d'Antioche disent... Oui, avec quelques aménagements, on est d'accord. Et Cyril dit, oui, je suis d'accord pour les aménagements. Et donc, il y a deux lettres qui sont échangées et ils s'embrassent. Et c'est vraiment un moment historique qui est significatif pour nous.
Peut-être pour nous encourager à vivre, à oser avoir cette audace-là
tout
aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, le feu continue à couver sous la cendre parce que Cyril d'Alexandrie a fait un certain nombre d'écrits avec une terminologie qui n'est pas très précise. Et il a utilisé une formule qui est de dire une seule nature du Dieu Verbe incarné, une seule nature monophysique. Et donc cette phrase-là va être brandie par les radicaux de Cyril qui vont outrepasser sa pensée pour défendre une position qui va pas être acceptée. Il va y avoir des clarifications qui vont être tentées. Le patriarche Procluse de Constantinople va écrire aux Arméniens pour se suite à leur demande. Parce que bon, l'Arménie, c'est la grande Arménie de l'époque. Les Arméniens disent, mais qu'est-ce qu'il faut penser de certains écrits de Théodore de Mopsueste, par exemple? Et Procluse va dire, non, il y a deux natures, mais il y a qu'une seule personne. Et ce qui est important, c'est une seule personne. Le Dieu le Père, Dieu le Fils, le Christ est unique parce que c'est une seule personne. Et alors, bon, il se trouve que dans ces années-là, tous les protagonistes de la querelle du concile d'Éphèse contre Nestorius disparaissent. Jean d'Antioche meurt en 442, Cyril en 444, Procluse en 446. Seul reste un théologien de l'école d'Antioche très important qui s'appelle Théodore de Cyre et qui écrit un livre qui s'appelle Le Mendiant, Eranistes, pour attaquer les positions d'un moine nommé Eutychès, un extrémiste de Cyril d'Alexandrie, qui avait une grande réputation de sainteté à Constantinople et qui avait ses entrées à la cour impériale. Et ce mendiant hérétique, dialogue avec un adversaire orthodoxe dans le livre, et il dit, ce mendiant, que l'humanité et la divinité du Christ ne font qu'une seule nature, que le Christ n'a fait que passer à travers la Vierge, qu'il faut attribuer les souffrances de la passion à la divinité du Christ, qu'après l'incarnation, la nature divine a absorbé l'humanité comme la mer absorbe une goutte d'eau, et que le corps du Christ n'est pas de même nature que le nôtre, etc. Donc Théodoret, dans le livre, évidemment, c'est l'orthodoxe qui répond, mais non, pas du tout, il y a deux natures avec une seule personne.
On voit, on devine là, effectivement, des sujets qui vont être au cœur du concile de Chalcédoine.
Tout à fait. Et ces thèses, celles de Proclus et celles de Théodoret, vont, celles qui vont être retenues par le concile suivant. Mais, entre-temps, il va se passer un certain nombre de choses. Le synode de Constantinople, l'ensemble des évêques autour de l'archevêque Flavien, de Constantinople, va convoquer Eutychès.
En 448, trois ans avant Constantinople.
Voilà. Et Eutychès est un moine borné. Il ne fait que répéter les formules de Cyril d'Alexandrie sans vraiment les comprendre. Et lui, il dit, avant l'union, il y a deux natures. Après l'union, il y a une seule nature. Si vous dites deux natures, après l'union, ça veut dire qu'il y a deux Christ. Donc, c'est Nestorius. Bon, le synode va condamner et excommunier Eutychès, qui va faire appel à l'empereur, qui, entouré de tous ses conseillers, va soutenir l'interprétation d'Eutychès et va se déclarer hostile à l'archevêque Flavien de Constantinople. Bon, bref, tout ça, c'est compliqué. L'empereur Théodose décide finalement de convoquer un concile. Eutychès écrit à l'évêque de Rome, Léon le Grand, Léon Ier, à Dioscore d'Alexandrie, le successeur de Cyril, et aux évêques de Jérusalem et de Thessalonique. Flavien écrit à Léon, Eutychès nie que le Christ après l'incarnation est en deux natures. Il dit que la chair du Seigneur nous est pas consubstantielle et que le corps du Seigneur n'est pas un corps d'homme. Alors Léon va écrire un traité dogmatique essentiel qui s'appelle le Tome à Flavien. Il répond à Flavien de Constantinople et qu'on étudiera dans une prochaine émission. Mais cet ouvrage va arriver tardivement et le concile va se réunir sans avoir pu prendre connaissance de ce tome. Bon, Dioscore d'Alexandrie, l'évêque d'Alexandrie, le successeur de Cyril, soutient la convocation d'un concile. Il n'est pas partisan des thèses d'Eutychès, mais il y a des problèmes politiques derrière tout ça. C'est que Dioscore voudrait bien asseoir l'importance du siège d'Alexandrie au-dessus du siège de Constantinople et d'Antioche. Donc il y a des questions politiques qui vont se greffer. Bref, le concile se réunit à Éphèse en 449. Il est présidé par Dioscore. Comme le concile d'Éphèse était présidé par Cyril d'Alexandrie. Alors, il y a 135 évêques qui se retrouvent. Les légats de l'évêque de Rome sont présents. L'évêque d'Antioche est présent. L'évêque de Constantinople. On a exclu le théologien Théodore de Cyre. Et Flavien est rétrogradé tout de suite derrière. On ne veut pas entendre parler. Et le concile va soutenir Dioscore et va... déclarer Eutychès orthodoxe et va le réhabiliter.
Alors qu'il avait été excommunié.
Voilà. Alors, le raisonnement, c'est de dire que la formule de Flavien qui concerne une double nature du Christ n'est pas dans le symbole de Nicée, dans le credo de Nicée. Parce que le credo de Nicée dit « consubstantiel au Père et par qui tout a été fait ». Et consubstantiel, ça veut dire une même nature que le Père. Mais il ne dit pas forcément qu'il y a une même nature que l'homme. Et donc, si ce n'est pas dans le credo, ça ne doit pas être accepté. Alors, Flavien est quand même arrêté. Flavien de Constantinople est arrêté, violenté, déclaré déchu, et il meurt peu après par ses blessures. Les légats de l'évêque de Rome demandent que soit lu le tome à Flavien qu'ils ont amené. Dioscore refuse. Bref, le synode... se termine d'une manière extrêmement violente, et des réactions d'indignation ne tardent pas à s'exprimer.
Qu'est-ce qui est retenu, enfin, comment on peut dire, quelles sont les positions finalement retenues?
Ben, les positions retenues, c'est le Christ a une seule, est une seule personne, et là une seule nature, et divino-humaine, mais il a une seule nature. Et malheureusement, on peut en parler, mais il y a des problèmes de termes qui sont utilisés et qui... Si aujourd'hui on doit essayer de regarder un peu comment fonctionnent nos frères coptes, syriens, etc., parce qui sont basés sur cette théologie de Cyril d'Alexandrie, l'utilisation des termes nature, substance, personne, etc., faudrait les remettre à plat, parce qu'en plus en copte et en syriaque, c'est pas les mêmes choses qu'en grec, et tout ça est compliqué.
Mais est-ce qu'on pourrait dire quand même que là se détricote un petit peu la réconciliation qui avait eu lieu entre Cyril d'Alexandrie et Jean d'Antioche?
Hélas, oui. Donc les légats de Rome remontent auprès de Léon pour lui dire que ce concile est épouvantable. Léon qualifie le concile de brigandage, et pour la postérité, ce concile restera comme le brigandage d'Éphèse. Alors, seulement, tout le monde demande un nouveau concile, mais l'empereur Théodose demeure inflexible puisqu'il est partisan de Dioscore d'Alexandrie. Il se trouve que le tournant, c'est que Théodose II meurt d'une chute de cheval.
Il y a beaucoup de tournants au moment où les gens meurent.
Hein. Ouais, absolument. Oui. Et la sœur de l'empereur, Pulchéri, qui va prendre la régence, succède à son frère et se marie à un général, Marcien, qui devient empereur. Et les deux, que Pulchéri et Marcien, sont favorables à une interprétation du Christ en deux natures, et non pas deux natures. Bon, Pulchéri fait carrément exécuter tous les courtisans qui étaient les soutiens du Tychès, elle fait interner Eutychès, elle fait rapatrier le corps de Flavien, et le successeur de Flavien est quand même quelqu'un d'Alexandrie, Anatole. Mais il accepte de signer le tome que Léon avait rédigé, et un nouveau concile est finalement convoqué pour abroger les décisions du concile du brigandage d'Éphèse de 449.
Donc le concile de Chalcédoine qui sera convoqué pour abroger ce qui avait été validé à Éphèse.
Voilà donc cette période extrêmement délicate entre deux conciles qui va finalement, par la grâce de Dieu et de l'histoire, va se donner lieu au concile de Chalcédoine.
Qu'on découvre la semaine prochaine. Merci.